I wonder about you. Are you racing or watching?
La dispute. Musique. Arnaud Laporte.
Cette émission est préparée par Aïssa Tundoy, Lucille Gomeau, Boris Pinault et Sarah Dion. Prise de son assurée ce soir par Nicolas Delmas et réalisation Guillaume Baldi. Autour de moi, Sophie Rosemont, Hugo Cassavetti et Pascaline Potvin pour parler ensemble de Garden of Love, de Scratch Massive, Suspiria de Thom Yorke, Negative Capability de Marianne Faithfull et il y aura un coup de griffe, enfin, sachant des coups de cœur, coup de griffe de Sophie Rosemont envers Happy Christmas, Eric Clapton et plus généralement les albums de Noël. Toujours des cadeaux à gagner grâce au jeu de la dispute ce soir, des places de cinéma pour les Yatskan, un film d'Anna Celia Kendall Yatskan qui sort demain dans une salle à Paris, le Saint-André des Arts. Et pour ouvrir cette dispute, nous allons chanter joyeux anniversaire, Pascaline Potvin. Bah oui, non, mais c'est pas de vous dire qu'on est en direct pour son anniversaire. Donc, il est prévu que vos camarades disent du bien du disque que vous auriez choisi, mais comme j'ignore lequel c'est, il faudrait me le dire. Vous avez choisi un des trois, trois disques au sommaire.
Non, je me suis laissé.
Vous avez subi ce sommaire.
J'ai me aussi laissé porter, mais je vous remercie en tout cas pour ces vœux d'anniversaire qui resteront toujours un doux souvenir.
D'accord.
Pour toutes les années qui
vous garderez le podcast.
Tout à fait.
Votre machine. On ouvre vraiment cette dispute avec Garden of Love, ce qui va bien pour un anniversaire. C'est un disque Scratch Massive sorti chez Bordel. Maud Jeffrey et Sébastien Chenu sont donc de retour. Ils annoncent La Couleur avec ce titre qui est emprunté à William Black. L'amour, quoi d'autre, hein, Sophie Rosemont qui est en train de tweeter, instagrammer plus exactement. L'amour, thème inépuisable. À titre d'exemple, pour cet album, nous écoutons le morceau Sunken.
I'm okay.
Pascaline Baudouin, est-ce que vous avez envie de commencer ou pas? Parce qu'aujourd'hui, c'est votre anniversaire et vous décidez.
Je relève tous les défis.
Alors, Scratch Massive, voilà. Le nouvel album.
Alors, moi, j'avoue, c'est un album dans lequel j'ai eu beaucoup de mal à rentrer, en fait. C'est un album que je trouve principalement insaisissable, en fait. Alors, je me suis un peu renseignée, du coup. Donc, c'est un album qui a été enregistré par Scratch Massive à Los Angeles, où tous les deux, ils ont un studio à eux, maintenant. Je crois qu'ils l'ont enregistré vraiment ensemble. Il n'y a pas eu d'aller-retour avec Maud Jeffrey en France et son comparse à Los Angeles. Et je les ai lus dire que l'album avait été influencé par l'atmosphère de LA, sa lumière, sa douceur de vivre. C'est un album qui s'appelle Garden of Love, donc qui est censé parler de paix, d'amour. Moi, je retrouve une ambiance de Los Angeles, mais plus dans sa lumière, effectivement, parfois un peu diffuse, un peu brumeuse, un peu éthérée. Et du coup, c'est un album dans lequel, comme ça, il y a de la lumière, il y a de la douceur, mais je me perds. J'arrive pas à m'accrocher sur quelque chose, c'est ça qui me manque un petit peu. La première partie du disque est très dans le tempo, donc on a envie que ça commence, on a envie que ça démarre. Franchement, ça ne démarre pas, je trouve, on a du mal. Ils sont allés piocher du côté du rap, de la trap, notamment au niveau des beats, on entend bien, pour donner quelque chose d'un peu plus contemporain. Mais là aussi, j'accroche pas, je reste dans quelque chose d'un peu 90s. Encore une fois, entre deux, rien qui se fixe. Et on l'écoute, et on l'écoute, et on l'écoute. De temps en temps, là, quelques titres quand même qui m'accrochent. Il y a un petit pont comme ça, un peu baroque, sur un titre qui s'appelle Dunter in the Dark, que je trouve assez beau, qui lui donne un peu de poids et de chair, on va dire. Chute libre, qui est un morceau techno, on a l'impression comme ça d'avoir des petites balles rebondissantes qui quadrillent le titre, qui vous arrivent dans tous les sens. C'est assez vertigineux, on a enfin une sensation un peu plus concrète, un peu plus intense. Another Day, qui fait partie de ces chansons que sait faire Scratch Massive, avec un côté un petit peu Mazistar, un petit peu dream pop comme ça, qui sont assez jolies, mais encore une fois, c'est un album, je trouve, qui a plein de belles intentions, et on saisit ces intentions, mais je ne suis pas sûre qu'elles nous touchent vraiment. Enfin, en tout cas, moi, elles me laissent un petit peu loin, en tout cas.
Sophie Rosemont, premier regard sur ce disque de Scratch Massive.
Je suis assez d'accord avec Pascaline, et pas seulement parce que c'est son anniversaire. Cette histoire par rapport à Los Angeles, ça m'a assez surprise, parce que j'ai pas du tout cette vision-là de Los Angeles. Alors oui, il y a ce côté lumière diffuse, mais après, il y a une espèce d'enthousiasme à Los Angeles, je trouve, du point de vue culturel. C'est quelque chose d'assez effervescent et à la fois de très dispersé. Ce qui est un peu le cas de l'album, qui pourtant se concentre autour d'un but, manifestement, voilà, parler d'amour. Je trouve que plutôt, ce qui colle plus avec l'esprit de l'album, c'est le titre, Garden of Love, qui est tiré d'un poème de William Blake. Et là, oui, je retrouve plus le côté, on va dire, très mélancolique, si ce n'est pour pas dire terriblement triste, de William Blake. Il y a deux, trois titres que je trouve très bien, notamment celui qu'on vient d'écouter, Sunken, que je trouve très réussi, le plus pop, sans doute. Last Dance, qui ouvre l'album. Mais il y a un je ne sais quoi de profondément glauque qui m'empêche peut-être d'accéder au cœur de cet album, même si j'aime toujours autant la voix de Maud Jeffrey, même si on n'est pas encore à celle de Hope Sandoval que j'adore. Hope Sandoval arrivait même à... Elle avait quelque chose effectivement de mélancolique et parfois d'un petit peu triste, mais il y avait toujours ce côté un peu léger, très vaporeux en fait. Quand il y a la vapeur et il y a la brume, là on est presque dans le brouillard. Alors je vais pas dire nuit ou brouillard, mais en tout cas on est vraiment plus dans le brouillard que dans la brume. Et c'est donc c'est quelque chose qui est assez
On peut pas dire pas agréable
parce que c'est tellement bien exécuté. C'est vrai que lui, Sébastien Chenu, c'est quand même un magicien des machines. Elle, voilà, une fois encore, elle a une très belle voix, mais il y a quelque chose qui me laisse au bord de la route. Voilà.
Bon, alors Hugo Cassavetti prend plein de notes de façon très désordonnée sur sa grande
comme
feuille
toujours.
Blanche. Parce là, que je les vois mieux, là. Je sais pas, vous avez changé de place, parce que chacun a ses habitudes autour de cette table.
Mais ça me sert jamais à rien. D'abord, je n'arrive pas à me relire.
Ça vous permet de penser.
Mais ça m'occupe.
Alors, Scratch Massive.
Non, c'est un peu embêtant, parce que je sais pas par où partir. Déjà, Mazistar, j'ai un peu du mal à comprendre. J'ai vu ça, c'était souvent cité. C'est un groupe fétiche pour moi. Je vois, c'est presque de l'anti-Mazistar, puisqu'on parlait de Hope Sandoval, qui est une voix charnelle et incarnée, il me semble, pour moi, sexuée même. Alors que là, je pense qu'il y a quelque chose d'extrêmement, malheureusement, d'assez plat et fade, quoi. Quand j'écoute ce disque, j'entends aucun relief. Ça m'étonne d'autant plus. D'abord, peut-être, voilà, j'avoue que je suis pas arrivé à cette 87e écoute où tout à coup l'album s'ouvre. Pascaline a eu cette patience-là. Mais c'est vraiment ça que je reproche. S'il y a quelque chose à reprocher cet album, c'est de trouver ça assez plaisant, mais assez linéaire quand même. Il y a effectivement le morceau qu'on a entendu qui se distingue un peu, c'est chanté par Léonie Pernet, c'est ça. Mais surtout, ce qui me surprend, c'est, moi, c'est vrai que c'est pas la musique que j'écoute spécialement, mais qu'il y avait un album l'année dernière de Maud Jeffrey en solo, étonnamment, beaucoup plus varié, riche,
très bel album,
y compris la voix, la mélodie. Et je trouve qu'il y a vraiment un retrait, un recul. Ce qui est étonnant, c'est qu'ils se sont retrouvés, et c'est censé être un peu, tiens, c'est la somme de ce qu'on a fait séparément pour faire quelque chose de plus fort. On a presque que non, ça a plutôt, c'est comme si ça se retranchait, quoi, qui s'annulait. Est-ce que c'est l'air de Los Angeles? Quand on dit, j'entends pas Los Angeles, j'entends, oui, ce qu'on appelait un peu le soft rock des années 80, mais à la mode électro, quoi, synthétique d'aujourd'hui. C'est Juvet sans les beats, quoi.
Presque gothique, presque gothique par
moment. Note cette phrase quand même.
Il en faut une toujours pour le web, je sais. Elle est venue comme ça, elle n'est même pas marquée.
Ouais. D'accord, bon, voilà, c'est ça qui est beau.
Mais lui, il love America. Eux, apparemment, l'America, les love pas, mais bon.
Ouais, bah, moi, je suis un peu, je sais pas, perdu entre vous tous, parce que c'est un album que je trouve effectivement pas évident dans la... Il nous accueille pas à bras ouverts, c'est le moins qu'on puisse dire. Et en même temps, pour moi, il y avait vraiment des morceaux qui se dégageaient dès la première écoute, ceux que vous avez cités, Last Dance, Sunken, j'ai oublié des derniers titres.
Fill the Void,
Another Day. Aussi. Mais je connaissais pas cette histoire de Los Angeles. Alors, je connais peut-être pas assez bien Los Angeles pour y voir quelques ressemblances ou quelques airs possibles. Mais en tout cas, je vois pas, moi, de colonne vertébrale à ce disque. Je vois des morceaux épars. Certains qui m'ont touché immédiatement, d'autres que j'ai envie de réécouter, d'autres que j'écoute plaisamment, mais sans être. Mais je ne comprends pas la structure, je ne comprends pas non plus d'ailleurs l'ordre des morceaux dans le disque. Non, mais c'est ça qui constitue un album. Donc là, je n'ai pas l'impression d'être face à un album, mais plutôt à une collection de chansons de diverses qualités. Sophie Rosemont, où est-ce que je veux dire?
C'est vrai que le track listing est sans doute pas très bien pensé.
Commencer par Last Dance. Anglais, hein.
Pardon. La liste des chansons.
Voilà.
Commence bien. Je trouve que Last Dance, c'est une très belle introduction. Ouais. Mais après, effectivement, on perd en chemin. Donc peut-être que le fléchage n'est pas assez visible. Et que d'où cette sensation qu'on partage tous sans pour autant dire que c'est mauvais, parce que ce n'est pas un mauvais album.
Mais c'est vrai
qu'en
plus, avec ce titre de Garden of Love, on attend au moins d'y entrer, de le traverser,
et
d'en
d'avoir
ressentir.
Des repères aussi. D'avoir peut-être d'avoir un chemin, d'avoir des repères, d'avoir des je sais pas, une statue quelque part, un buisson,
des
que sais-je.
Des nains de jardin.
Des nains de jardin, pourquoi pas, mais en tout cas, d'avoir un paysage qui se dessine. Et là, on a plus des impressions, des atmosphères, mais qui pourraient marcher en plus. On est dans de l'électro, on pourrait avoir quelque chose, des atmosphères très intenses. Mais c'est vrai qu'ils ont toujours tablé aussi sur ce côté. On n'a pas peur de faire de la pop, de faire des chansons, des couplets, des refrains. Mais même là, les mélodies, les couplets, les refrains, je trouve, ne sont pas suffisamment fortes pour apporter un squelette suffisant à la chanson.
Hugo Cassavetti.
Oui, juste ce que je voulais dire, c'est que c'est une musique quand même assez, on sera peut-être pas d'accord, mais assez froide, mais pourquoi pas. Et ce qui est étonnant, c'est comme si en allant à Los Angeles, ils ont plutôt un peu son ramolli au fondu au soleil, alors que le mot de Jeffrey avait été enregistré au fin fond de la Laponie.
Ah,
et
oui.
Comme si, voilà, s'il y avait de glacé, en comparaison, ça devenait chaud. Et je trouvais, voilà,
tonique en tout cas.
Oui, il y avait quelque chose.
Ouais,
quoi,
plus acéré.
On sentait qu'elle était stimulée. Ouais. Alors que là, on sent qu'ils sont un peu ramollis, quoi. Voilà, c'est à la californienne.
Mais c'est froid. Tout est froid. Les mélodies, enfin, quand il y en a vraiment des conséquences, sont froides. La production est froide. Les paroles sont assez froides, étonnamment. C'est vrai que c'est un disque qui est froid.
Désincarné un peu.
Est-ce que c'est un disque qu'il faut écouter en automne? C'est un peu le problème. Peut-être même un problème de date de sortie pour ce disque. Est-ce qu'on a envie d'écouter ça maintenant aussi? Non, mais il y a vraiment une météorologie des sorties d'albums à imaginer. Ce sera votre prochain essai qui sortira bientôt aux éditions La Dispute. Non, ça existe en plus vraiment, l'édition La Dispute, donc je ne voudrais pas qu'on s'entende mal. Bon, Garden of Love, peut-être qu'il faut aller le voir en concert. Scratch Massive sera le 7 mars à la Gaîté Lyrique. Peut-être qu'il y aura une autre dimension dans ces morceaux joués live. En tout cas, le disque, lui, est sorti chez Bordel. On va continuer cette dispute avec un double album bande originale du film Suspiria de Thom Yorke, avec le retour, encore une fois, de Marianne Faithfull, et puis un coup de griffe qu'on attend impatiemment envers les albums de Noël.
France Culture. La dispute. Arne Laporte.
Suite de cette dispute musique, mais ai-je dit déjà que c'était l'anniversaire de Pascaline Baudevin?
Mais non, je crois qu'il faut le dire.
Pas assez, je crois
qu'il faut le dire.
Pas assez,
bon anniversaire, Pascaline.
Merci.
Est-ce que c'est un beau cadeau que de vous offrir la bande originale du remake de Suspiria, film de Luca Guadagnino, que je n'ai pas vu, dont on m'a dit les pires choses d'ailleurs, sauf Sophie Rosemont qui a le pouce en l'air. C'est Thom Yorke, en tout cas pour la première fois, qui a accepté de faire et de composer une bande originale, double album, beaucoup d'instrumentaux forcément, et quelques chansons dont celle que nous allons écouter, Suspirium. Thom Yorke, c'est la bande originale du film Suspiria, dont nous ne parlerons pas dans la dispute. Donc si vous voulez faire un peu de critique cinéma, Sophie Rosemont, vous êtes la seule à l'avoir vu dans ce studio, vous pourrez le faire. Est-ce que vous avez envie de commencer parce que c'est votre anniversaire après tout? Non, vous ne pouvez pas commencer sur tous les disques.
Non, je vais laisser la place.
Vous laissez la place à...
À qui veut?
À Sophie.
Oui.
Sophie, puisque vous avez vu le film est bien ou pas alors?
Le film n'est pas si mauvais qu'on ne le dit en tout cas.
Qu'on me l'a dit.
Qu'on me l'a dit. J'ai trouvé ça assez beau. Et ce n'est pas tout à fait un remake, c'est d'ailleurs pas vraiment un remake, c'est plutôt une réinterprétation très référencée et qui, certes, se fait très plaisir en citant ses multiples influences de l'original de Dario Argento. Et beaucoup moins gore, beaucoup moins sans doute inventif. C'est, forcément, ça datait de 77, l'original. En tout cas. Alors, il vaut aussi pour la musique.
Comment s'inscrit cette bande originale dans ce film?
Elle s'inscrit.
On en a tout le temps.
C'est un double album. Très très souvent, mais pas tant que ça. C'est un long film, très long film.
Ah
en
oui.
En revanche, très très très. Ça par contre, c'est vraiment un problème, trop long. Mais quelle merveille que cet album, quelle merveille que ce disque. trois chansons sublimes du grand Radiohead, celle qu'on vient d'écouter, qui est pour moi sans doute une de mes préférées depuis très très longtemps, et deux ou trois autres qui sont très belles. Il y a des milliards de choses à dire sur ce disque qui fonctionne très bien dans le film et qui fonctionne très bien sans. Je pense que c'était le but de Thom Yorke, et où je trouve qu'il se révèle plus, se libère un peu plus. Alors il l'a déclaré que le cadre de la bande sonore lui avait permis d'explorer davantage de choses, etc. Sans doute, parce que c'est quand même quelqu'un qui contrôle énormément, qui se bride beaucoup. Là, tout est construit plus ou moins autour des claviers, qui sont une espèce de fil rouge sur un disque où beaucoup de choses ne se ressemblent pas. Et pourtant, tout tourne autour de la même chose. Alors, on va dire, du point de vue thématique, c'est la sorcellerie. C'est de ça dont il est question dans le film. Et lui parle de tour de magie qu'il a fait en studio. Et oui, ça tourne autour de ça. Et c'est aussi un disque qui est très féminin. Tout comme le film l'est également, et mais qu'on peut voir sans avoir vu de loin Suspiria, qui veut dire soupir en latin.
Et même un cours en plus.
Et il y a
langue.
Il y a d'ailleurs à la fin d'un morceau qui n'est pas une chanson, qui est un morceau de 15 minutes qui s'appelle Core of One, qui est assez magnifique. À la fin de ce morceau, il y a une espèce de soupir très très prenant que je trouve saisissant. Et il y a énormément d'émotions dans ce disque. Donc sans rien connaître, en l'écoutant juste, évidemment, on peut être désorienté par certains bruits. On sent que l'atmosphère est effrayante, lourde, sous tension, inquiétante. C'est surtout beaucoup d'inquiétude. L'atmosphère répond à tout ça. Côté référence, évidemment, on entend du John Carpenter, du Mac Oldfield, mais surtout... pas forcément ça, j'ai entendu du Pierre Schaeffer, j'ai entendu du Pierre Henry, du Sakamoto aussi. Donc, pas forcément des musiques liées à la bande sonore de films d'horreur. Au contraire, des musiques assez sereines, assez apaisantes, bien que dans l'interrogation. Alors après, je vais peut-être un peu loin dans l'interprétation. Mais donc c'est Suspiria, donc c'est du latin. Quand on pense aux sorcières, on pense effectivement au Moyen-Âge. Et là, je trouve que ça soit dans les paroles comme dans l'instrumentation, il y a quelque chose de libéré. Enfin, en tout cas, quelque chose qu'il a laissé partir, Thom Yorke, qui a aussi ouvert la porte à son fils, Noah, sur la batterie, et à sa fille, Agnès, sur les visuels. Et ce qui nous renvoie au décès de son ex-compagne, Rachel Owen, qui est une professeure émérite de littérature médiévale. De littérature médiévale, et qui a notamment étudié forcément les sorcières, le mythe des sorcières. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se rejoignent, sans doute, dans ce disque, qui m'ont en tout cas, qui est un disque qui m'a émue avant même que je fasse le lien. C'est seulement ce matin, en le réécoutant, j'ai repensé à certains cours, à certaines conférences qu'avait donné Rachel Owen, sur en tout cas la littérature médiévale italienne. Et là, tout s'est suivi. Mais même sans ça, il y avait quelque chose qui m'avait émue.
Bon, après cette conférence du professeur Rosemont, Hugo Cassavetti a la parole.
Non, mais on est impressionné d'abord, oui, sur la qualité du disque, je ne peux être que d'accord, sur cet éclairage nouveau, mais qui donne effectivement peut-être encore plus de sens à ce disque. Je pense à beaucoup de choses, ce fameux titre Choir of One, qui veut dire une chorale seule, et c'est un peu ça résume un peu le concept de ce disque. Non, la première grande surprise, moi j'ai pas vu le film. Apparemment, je ne sais pas si c'est utile ou pas, mais et je sais qu'il y a le pire cliché, c'est toujours de dire, dès qu'on entend n'importe quel disque instrumental, on dit oui, c'est la bande sonore d'un film imaginaire et tout. Souvent, oui. On n'a plus jamais le droit de dire ça. Là, ce qui est bien, c'est qu'un film existe, mais il semblerait, je ne l'ai pas vu, qu'il soit bien ou pas, maintenant je m'en fous, j'ai en tout cas un disque super, et c'est assez rare, quoi, des disques de bande sonore. Tout ça nous ramène donc à Thom Yorke, qui, l'inquiétude, quand on apprend qu'il fait une musique de film, on n'avait jamais fait jusque-là, on se dit, bon, il va aller. J'aime beaucoup ce qu'il fait avec Radiohead, j'aime bien ses 10 solos, mieux, je préfère en live, quand il part dans ses explorations plus électro et tout. Donc je m'attendais vraiment à ce qu'il aille dans ce sens-là. Et là, la grande surprise, c'est qu'effectivement, l'impression que c'est Radiohead, mais bon, vous sortez tous du studio, je vais le faire tout seul, mon disque de Radiohead. Et on a, comme s'il restait, comme sur les meilleurs disques de Radiohead, il reste toujours 2-3. Super balade, et autour il y a les autres chansons qu'on aime beaucoup, c'est ce qui fait la richesse de Radiohead. Et là, lui, par contre, je vais construire autour avec tout ce que je peux faire, mais et peut-être l'éclairage de Sophie en dit beaucoup sur il a voulu faire ce film. On sait qu'il était il était surtout fan de Goblin, quoi, le groupe italien progressif qui avait fait la BO du très culte du Suspiria original. Peut-être qu'à mon avis, il préférait Goblin au film, on n'en sait rien. Mais que quand on dit que c'est vrai que ce qui est étonnant dans ce disque, c'est assez rare, c'est peut-être un cliché, mais que ce disque à la fois évoque, moi je trouve à chaque chanson, on peut imaginer le pire film d'horreur qui soit angoissant, et en même temps il y a quelque chose de très radieux, quoi, lumineux, quoi. C'est que c'est pas oppressant du tout. Et en même temps, ça peut faire très peur et tout, et c'est assez fort d'arriver à ça. Et tout ça, bien sûr, est incarné. Il y a que 3 chansons. Je pense que c'est la magie, en plus de ce disque. Parce qu'il y aurait des chansons tout le long. On n'en pouvait plus, quoi, de l'entendre râler de, non, mais je... Et là, elles arrivent comme si tous les morceaux autour ne servent qu'à amener, à arriver à ces chansons. Et tout est, tout s'enchaîne comme ça avec ces sons, effectivement, qui, mais, je sais pas quoi, mais c'est juste qu'on voit pourquoi, je sais qu'il y a des gens qui ne rentrent pas dans Radiohead et c'est leur droit, mais qu'on se dit pourquoi il fait partie des rares personnes encore intéressantes qui cherchent, trouvent souvent, et qui est doté, une fois de plus, c'est pas assez, c'est cruel de passer après Scratch Massive, une fois de plus, parce que là on a une voix quoi, on a la voix de Thom Yorke qui... pour peu qu'on y soit sensible, et quand même quelque chose qui vous prend, qui vient de on ne sait où, bon, de l'intérieur, mais de voilà, c'est une des rares voix totalement unique, définie, et qui est chargée, tellement chargée d'émotions, et ça transporte, et la musique est à la hauteur de cette voix.
Bon, on a compris que c'était un dithyrambe du Hugo Cassavetti. Pascaline Potvin.
Non, mais moi, je suis tout à fait d'accord. Moi, je fais partie...
Pas de dissensus. Je sens que je vais intervenir.
Ouais, non, je fais partie des gens dont parlait Hugo Cassavetti qui sont rentrés dans Radiohead depuis toujours et qui n'en sont jamais sortis. Donc, comme on n'a pas assez dit que c'était mon anniversaire, j'avoue, je suis assez contente de pouvoir parler de Thom Yorke le jour de mon anniversaire. Voilà, ça c'est fait. Moi, je trouve aussi le disque très, très beau parce qu'effectivement, je n'ai pas vu le film non plus. Je trouve que le disque existe en lui-même. J'ai lu là que, de la même manière qu'Argento avait demandé à Goblin de faire la BO du premier Suspiria parce que c'était un groupe de son époque et qui parlait à sa génération. Guadagnino avait demandé à Thom Yorke pour les mêmes raisons.
Bah, il s'est trompé quand même.
Bah, sa
c'est
génération.
De quelle génération on parle?
À lui, la nôtre. Enfin, la sienne et la mienne en l'occurrence, quoi. Si, si.
J'ai un doute, moi.
Moi, c'est le Radiohead et les Thom Yorke. Non, non, mais sa génération à lui et celle de juste après, c'est celle de ma génération à moi. En tout cas, on peut considérer Thom Yorke comme un artiste générationnel. Mais je trouve que c'est même pas ça la question.
Mais ce sont les jeunes qui vont au cinéma, c'est pour ça que ça m'étonne un peu. Ah bah, si passé 25 ans, vous savez que les gens ne vont plus au cinéma. Mais bon, ça c'est un autre débat sur les pratiques culturelles des Français. Vous avez l'air étonné. Hein. 50% des gens sont allés une fois ou moins au cinéma. 50% des gens sont allés une fois ou moins au cinéma dans les 12 mois écoulés en France. Ça, c'est les statistiques, ce sont. Mais bon, peu importe.
En tout cas, je trouve que c'était une bonne idée de toute façon.
J'amène un peu de débat.
De débat, mais je trouve que c'était une bonne idée de demander à Thom Yorke de faire cette BO. Parce que Thom Yorke sait faire peur depuis toujours, en fait. Il sait faire peur depuis Fitter Happier sur OK Computer. Moi, j'étais ado quand j'écoutais ça. Ça me mettait des frissons, déjà. Et en fait, ce que je trouve intéressant avec le disque, c'est qu'il joue de manière assez évidente avec tous les codes de la musique de films d'horreur. Il y a des petits bruits, ces synthés très angoissants. Effectivement, ce morceau dont on a parlé, ce 14 minutes de Choir of One, qui est une espèce de drone comme ça, de voix qui s'entremêlent, qui sont détournées, torturées. Enfin, pour se terminer, on a carrément la voix de Satan. Et à la fin, c'est même Synthesizer Speaks. Il speaks pas, il hurle, il agonise, il en peut plus du tout. Mais moi, j'écoute pas ça la nuit toute seule. Hein. C'est vraiment, ça fait très peur. Et donc, voilà, je trouve que cet album, il existe par lui-même parce qu'il peut faire peur, il convoque beaucoup d'émotions, il donne beaucoup d'émotions très intenses, sans même qu'on ait vu le film. Il joue avec les codes du film d'horreur en conservant son empreinte musicale. On a très clairement les tics musicaux de Thom Yorke, ces espèces de mineurs, majeurs qui passent de l'un à l'autre très vite, sa voix, effectivement. Et donc, on a un disque très évocateur, très beau, qui existe par lui-même. Et effectivement, au milieu de tout ça, ces chansons qui sont sublimes, qui sont effectivement, moi, je les trouve magnifiques, qui effectivement, moi aussi, m'évoquent davantage le Radiohead, même plutôt fin des années 90, début 2000, que celui de la fin, duquel je suis moins fan. Ce Suspirium qui est décliné ensuite en... Il y a une deuxième version de la chanson avec des cordes beaucoup plus déployées. Les deux sont magnifiques. C'est une espèce de valse effectivement fragile, lumineuse et angoissante en même temps. Et à la fin, le thème revient dans l'épilogue où là, on a l'impression qu'il se reflète dans un miroir brisé. Il est un peu criard, il est un peu insupportable. Enfin, moi, je n'ai pas vu ce film, mais j'ai vécu et j'ai vu plein de choses en écoutant ce disque. C'est ce que me fait souvent Thom Yorke. Là, je suis peut-être moins sur les derniers albums de Radiohead et sur ses albums solo. Moi, j'étais hyper ravie de retrouver ces sensations-là. Mais vraiment, je les écoute encore, et je les écoute pour moi et pour le plaisir.
Quel beau cadeau d'anniversaire.
Et je vais les écouter longtemps. Voilà.
C'est bien pour vous. Parce que je ne sais pas si on l'avait dit, hein, que c'était votre anniversaire ce soir. Peut-être qu'il faut être fan de Radiohead, hein, parce que moi, je ne l'ai jamais été. Et ça n'a pas commencé avec l'écoute de ce disque qui m'a ennuyé, où j'ai entendu toutes les références que vous avez citées, mais en tant que référence, c'est un peu le problème. C'est-à-dire que si on adhère et qu'on est sensible à Radiohead et qu'on est ému par Radiohead, plus du début, hein, j'entends bien, que ces dernières années, on trouvera son bonheur. Et c'est vrai que moi, je n'ai trouvé que du sous quelque chose à chaque fois. Enfin, du sous, vous citiez Père Henri Carpenter. Et ces noms-là, on les entend, mais on pourrait en citer quelques autres. Et quant aux chansons, bah, ça fait 25 ans que j'en peux plus d'entendre gémir de Thom Yorke. Donc, il y a une qualité de sa voix, c'est évident, mais je pense qu'elle est vraiment attirante ou repoussante. Je pense qu'on ne peut pas être tiède face à Thom Yorke ou Radiohead. Je pense que c'est une adhésion totale ou pas.
Oh, il y a le Shabbat à incantation, c'est du chant grégorien, c'est pas lui qui chante.
Non, mais
vous devriez le réécouter, Arnaud Laporte.
Bon, mais j'ai des très bons disques de chant grégorien chez moi et j'ai pas besoin de Thom Yorke
On n'a pas besoin d'être fan. Je ne le suis pas parce que moi, je les ai beaucoup aimés au début. Après, je les ai perdus pendant 10 ans. Il a fallu que je retourne voir Radiohead en concert
Vous avez aimé.
J'ai un lien, oui. La première fois que je l'ai vu en concert, j'avais effectivement 16 ans. C'était hier, c'est vrai, vous avez raison. Et c'était il y a si peu de temps.
Ouais.
Mais sans être fan, je crois qu'il y a vraiment quelque chose qui touche. Et puis les mélodies sont quand même... Là, le titre qu'on vient d'entendre, Suspirium, il y a quand même une mélodie qui est assez forte.
Oui, très classique, banale et sirupeuse. Pour moi, vraiment sans aucun intérêt. Ça dégouline, hein, je vous assure.
J'essaie de vous provoquer
un petit peu, ça marche vaguement. Mais bon, je ne pourrais pas en dire beaucoup plus que cela. Hugo Cassavetti, lui, est en fan absolu. Hein. Je vous ai lu dans Télérama, hein. J'ai vu combien vous teniez en haute estime
plus,
cette bande originale.
C'est pas la même constance, j'ai pas eu avec Radiohead et tout. C'est drôle parce que sur les derniers albums, il y a toujours quelques morceaux.
Identikit
sur le dernier, c'est exceptionnel. Ouais. Et c'est pas grave, c'est pas des albums parfaits.
Les derniers mots pour Pascaline.
Non, je rebondis sur ce que disait Sophie, que je trouve super intéressant sur le fait qu'il se libère en se pliant à un exercice, entre guillemets, parce que il a jamais fait de BO, mais Radiohead avait fait un titre pour le générique de Spectre, le James Bond, qui a pas été retenu parce que trop sombre. On en revient encore une fois à ce qu'on dit, hein. Radiohead, on savait que c'était de la musique sombre, mais effectivement, qui peut faire peur et tout. Et finalement, c'était un titre de Sam Smith qui avait été retenu, qui est très palichon, très falot, très ennuyeux. Il faut réécouter ce titre qui s'appelle Spectre aussi, qui est très très beau, qui est pas si loin de ce que Thom Yorke a fait sur Suspiria. Et je pense qu'effectivement, il y a quelque chose à creuser là-dedans, que Thom Yorke au service de quelqu'un d'autre. Mais peut-être. Thom Yorke au service de quelque chose d'autre, du cinéma en l'occurrence, pour une musique qui est quand même très évocatrice de beaucoup d'images, ça fonctionne très très bien. On a peut-être envie de le voir davantage.
Peut-être que je vais lui faire une liste de contraintes, peut-être. Et peut-être qu'il arrivera enfin.
Thom, on l'appelle.
Bah, pour votre anniversaire, on pourrait peut-être.
Je m'attendais à ce qu'il soit là, moi, personnellement.
Il y a Julia Roberts qui vous attend au Café du Coin, votre copine, Julia. Bon, d'ici là, vous pouvez réécouter Suspiria de Thom Yorke chez XL Recordings. Allez voir le film. Il est sorti, ce film, d'ailleurs.
Il sort le 14 novembre.
Il sort le 14 novembre, autant dire mercredi en 8, selon l'expression consacrée. Enfin de la bonne musique dans cette émission, avec les chants de Noël, puisque c'est le coup de griffe de Sophie Rosemont. Et il s'origine, ce coup de griffe, dans un album que vient de commettre Eric Clapton, qui s'appelle Happy Christmas, dont on écoute pas une chanson en entier, faut pas exagérer.
I'm dreaming of a white Christmas, with every Christmas card I write. May your days be merry and bright, and may all your Christmases be white. Thank you.
Eric Clapton qui vous donne la parole, Sophie Rosemont. Qu'avez-vous à dire à Eric?
Pourquoi Eric?
Pourquoi Eric, tu n'as plus rien en même temps pour qu'il comprenne.
Tu n'as plus rien à prouver depuis longtemps. Tu es un guitar héros. On n'a pas besoin de t'entendre plaquer tes petits doigts agiles sur tes cordes pour faire du classic rock sur cet album de Noël. Alors moi, déjà les disques de Noël, je suis pas très fan. Moi, j'aime les chansons de Noël, ambiance les Miracles, ambiance les années 40, les comédies musicales, Beach Boys, qui est pour moi peut-être un des meilleurs disques de Noël, c'était celui des Beach Boys. Là, j'ai pas du tout envie d'écouter du classic rock pendant que je mange ma bûche ou que je bois ma petite coupe de champagne. Ça me déprime. Et non, et le problème, c'est qu'il n'y a pas que ça. Il y a un titre pour lequel je lui en veux beaucoup.
Ah.
Donc, c'est Jingle Bells. Qu'il a fait à la sauce.
Vous le dites, ça.
Oui, Jingle Bells.
Comment vous l'écrivez?
Jingle Bells. Non, mais Jingle pour Bells. Vous dire, en fait, il ne chante pas. Il ne chante pas. C'est une espèce de dance matinée de samba.
On aurait dû écouter ça.
Qui est dédié
mince,
à DJ Avicii. Alors déjà,
ah ouais.
Je n'ai pas envie d'écouter ça. Je n'ai pas envie qu'on me parle d'un DJ de suédois mort à 28 ans, le soir de Noël. Et surtout, je n'ai pas envie qu'Eric Clapton fasse des expérimentations douteuses. Donc,
ça
en fait, soirée.
Vous savez que ça donne envie, hein.
C'est vrai que je vous donne envie.
Ah bah oui, on a envie d'écouter
là,
ce morceau.
Non, vraiment, ça donne pas du... Alors, on sait que c'est une tradition très américaine. Ils adorent faire des disques de Noël. Tout le monde l'a fait. Dylan avait fait l'erreur il y a quelques années. Dieu sait que j'aime Dylan, qui est mon jumeau de cœur. Il est né le 24
Thorne
mai
aussi,
comme moi.
Dieu sait que j'aime Tracy Thorn.
Mais honnêtement, ce disque de Noël de Dylan, c'était horrible. Il n'y avait pas d'autres termes. Parfois, c'est réussi. Alors, cette année, j'ai un peu regardé ce qu'il faisait en disque de Noël. Il y en a un que j'ai trouvé assez réussi. C'est celui de John Legend. Pourquoi? Parce qu'il y a du pouet-pouet, il y a un peu de cuivre, il y a ce dont on a envie à Noël. On n'a pas envie de... Non. Si encore Eric Clapton avait pris sa guitare sèche, il nous avait refait un petit unplugged. Là, pourquoi pas, coin du feu. Ambiance coin du feu, avec mamie,
là, c'est grave ce qu'on vient d'entendre. Hein.
Là, ce qu'on vient d'entendre, c'est et la démonstration, et encore la démonstration, et ah, le Santa Claus, il est trop cool, et regardez, je suis le meilleur guitariste du monde ever alive. Non. On peut pas. Donc moi, je conseille de quoi? De réécouter le Nat King Cole, de réécouter le Snoop Dogg. Snoop Dogg a fait plusieurs disques de Noël, fort sympathiques. En fait, il faut qu'il y ait de la joie, de la bonne humeur, si possible des cuivres et un peu de groove. En fait, voilà, un disque de Noël, ça doit être groovy. Mmh. Sauf si c'est vraiment rétro, ce qui est pour moi la meilleure version. Les disques de Noël américains des années 50, ce sont des merveilles. Mais si vraiment on veut écouter un truc plus récent, prenons quelque chose d'un peu, voilà, de la soul, de l'âme. Pas une démonstration sur White Christmas qui est massacrée, alors que la version de 1942 est si belle. Là, je comprends pas. Le seul truc que je trouve un peu chou dans l'initiative et dont Hugo Cassavetti se moquait allègrement il y a quelques minutes, c'est la pochette de l'album.
Ah.
Et bien moi, je trouve ça mignon. Il l'a dessiné. C'est la seule chose
visuel,
à garder.
Hein. Bon, voilà. Je vais chercher le visuel pendant que nous avons quand même... Un demi anglo-saxon autour de cette table, Hugo Cassavetti. Alors parce que ça, certes, ça vient des États-Unis, mais les Anglais adorent aussi des de Noël.
Oui, bien sûr.
Hugo, et qu'est-ce que vous avez grandi dans cette tradition? Est-ce que vous pouvez nous dire si ça vous a un peu traumatisé ou pas?
Cette tradition?
Des disques de Noël?
Non, parce qu'on a eu des biens, c'est une tradition. Il y a eu une flopée, il y a une dizaine qui sont soit des curiosités, c'est anecdotique, je les collectionne pas, mais j'ai pas d'allergie à ça, quoi. Et de dire que ça doit être les disques de soul, je suis pas très convaincu, parce que c'est devenu tellement tous les ans, on se farcit une dizaine d'albums de soul, toujours les mêmes, et pète, et vive Noël
oui,
et tout.
Mais c'est pouet-pouet,
oui, mais
c'est Noël.
C'est...
Hein, bah, oui.
Là, il se trouve qu'effectivement, je sais pas ce qu'il y a derrière celui de Clapton, parce qu'il est juste d'une platitude absolue, parce que quand on dit je suis le plus grand guitariste, justement, c'est ce qui est presque touchant chez lui, c'est qu'ils s'en foutent d'être dans la démonstration, ils ronronnent. Ce qui est juste dommage, c'est qu'il a fait, il y a quelques années, un album sur lequel il y avait, qui se terminait, et ça, ça va vous surprendre, par une géniale version, une très belle version de Autumn Leaves, qui chantait très bien, qui jouait très bien, un truc comme ça,
des
et c'était
mortes,
parfait,
donc.
Des feuilles mortes, voilà.
Je
mais en anglais, par Clapton.
Dans les deux sens.
Mais là, c'est vrai qu'on je sais pas, c'est un, voilà, ce qu'on dit, les albums de contrat, de parce qu'il sait plus.
Mais ça se vend quand même, les albums de Noël.
Oui.
Non, pas en France, c'est non, parce qu'il n'y a pas de tradition de ça.
Et d'ailleurs, on vous faire ça comme cadeau d'anniversaire.
Mais non, ça non.
Mais je suis, voilà, ni pour ni contre.
Bien au contraire.
Il y a un inédit quand même, For Love on Christmas Day, qui est finalement le morceau le plus potable. Pas très excitant, mais le plus potable de l'album.
Pascaline Baudevin a un avis sur les disques de Noël et sur celui d'Eric Clapton.
Son avis sur les disques de Noël, c'est qu'elle préfère les chansons de Noël en fait aux albums.
Les vrais.
Non, mais je crois qu'en
Mon
fait, sapin, quitte,
roi
à...
des forêts.
Quitte à faire une bande son Noël, je ferais plutôt une playlist que d'écouter un album en entier, dans laquelle effectivement je mettrais des chansons des années 50, je mettrais moi mes chansons de Noël préférées qui sont des reprises des Cocteau Twins de Walking in the Winter Wonderland et Frosty the Snowman, c'est mes deux chansons.
Alors, comme vous l'avez dit vite, vous m'enverrez un lien.
Frosty
parce que
the Snowman
ça m'intéresse beaucoup,
et Walking in the Winter Wonderland.
Qui reprennent les
Cocteau
Twins?
Ouais, que reprennent les Cocteau Twins.
Ah, que reprennent les... Ah oui,
ouais,
d'accord.
C'est hyper beau. Moi, c'est mes deux chansons de Noël préférées. Je mettrais le groupe de Zooey Deschanel, là, qui a fait un album de Noël.
Ah, c'est vrai, avec
She and Him, avec M. Ward. Ouais. En fait, voilà, j'écouterais pas d'album.
Moi, c'est plutôt sûrement... ça, je suis d'accord. Ouais,
je pense que
Milo a pas fait un album de Noël.
Il y en a des tonnes.
Et Mariah Carey.
Non, mais George Michael,
c'est
Last Christmas. De... Ça, c'est une bonne chanson.
George Michael, mais bien
Last
entendu.
Christmas, c'est quand même, voilà, c'est iconique, même voilà. La chanson de Mariah Carey.
Bien sûr.
On la prend. On la réécoute en boucle.
En fait, c'est drôle, parce que c'est ça le problème. C'est que quand il y a cette culture, c'est qu'au selon chez qui on va en Angleterre, il y a les gens, c'est que même les bons, finalement, par saoulés, parce qu'il y a ceux qui, tous les Noël, vont vous mettre celui de Phil Spector, qui reste pour beaucoup le meilleur. D'autres vont sortir les Blind Boys of Alabama, on se le farcit en entier 4 fois de suite. Donc, de toute façon, on en a marre toujours. Et c'est vrai qu'il vaut mieux un panaché de Johnny Cash à...
Elvis.
À n'importe qui. Oui, de Elvis. Tout le monde. Il y en a des milliers, quoi. Donc, c'est justement profiter de la diversité de Captain Sensible. Et c'est ça qui est plutôt drôle, quoi. Imite chacun son tour, devrait en mettre un. Mais c'est le côté, j'ai celui de Clapton, j'ai celui de Céline Dion, c'est pas des disques très passionnants, même les artistes. Moi, j'adore Rod Stewart, je sais. C'est des...
oui,
mais quand il fait un disque de Noël,
c'est beau de le dire.
Mais oui, mais quand il fait un disque de Noël, ça ne m'intéresse pas. C'est pas bien.
C'est pour dire. Rod Stewart, disque de Noël, vous voyez un peu. Bon, c'était le coup de griffe. Ah oui, ben je l'avais là en plus, cette magnifique illustration. Un très beau dessin de Papa Noël hein, sur l'album d'Eric Clapton.
Voilà. Niveau CM2.
Il a signé lui-même.
C'est attendrissant, hein, oui.
Donc a priori,
c'est
avec des petits bisous en dessous. On s'arrêtera là.
La dispute France Culture. Arne Laporte.
La dernière séquence, cette dispute musique avec l'éternel retour de Marianne Faithfull, cette fois avec un album titré Negative Culpability. 21e album, 50 ans et quelques de carrière, des collaborateurs choisis, on va voir comment, mais au premier rang desquels forcément le génial Nick Cave, dont on entend bien non seulement la patte, mais aussi quand même un peu la voix dans le morceau, pour moi, de l'album. À l'exclusion de tout le reste, on va en parler. Le morceau que nous allons écouter de Gypsy Fairy Queen.
Friend Will calls me Puck and Robin Goodfellow. I follow the Gypsy Fairy Queen. I follow the Gypsy Fairy Queen. She walks the length and breadth of England, singing her song, using her wand. Help and heal the land and the creatures on it. She's dressed in rags of moleskin and wears a crown of rowan berries on her brow. And I follow, follow, follow the Gypsy Fairy Queen. Exist, exist, exist in the twilight in between. Mm-hmm. She bears a blackthorn staff to help her in her walking. I only listen to her sing, but I never hear her talking anymore. Though once she did, though once she did. Follow, follow, follow my gypsy fairy queen. We exist, exist, exist in the twilight in between. And I follow, follow, my gypsy fairy queen. We exist, exist, exist in the country in between. Me and my gypsy queen.
Est-ce que la Gypsy Queen, c'est Pascaline Potvin, on sait ce soir, je l'annonce, je l'avais caché jusque-là, c'est l'anniversaire de Pascaline
Potvin. Ça y est, tout est dit.
Je crois que...
Non, mais j'ai peut-être laissé, c'est Hugo là qui n'a pas parlé en premier.
Absolument, alors... comme vous êtes.
Bah oui,
non,
moi je
c'est
dis
magnifique.
La magnanimité.
Juste pour signaler que c'était votre anniversaire.
Bon, quoi déjà?
Pourquoi je ne l'aurais pas dit. Hugo Cassavetti, Marianne Faithfull.
C'était Kylie Minogue qui avait pris un coup de
Je transforme les noms hein, ce soir. Oui, c'est la même voix quasiment, sosie vocale.
C'est-à-dire que dans l'introduction, non, je dirais pas que tout a été dit, mais...
Mais vous pouvez me flatter un peu, des fois.
Quand vous avez dit, oui, l'éternel retour de Marianne Faithfull, cette phrase est beaucoup plus lourde de sens qu'on le croit, et c'est un peu le souci avec Marianne Faithfull, parce qu'on va repartir de la fin. C'est... Alors, le titre est quand même assez... Alors, elle l'explique, « Negative Capability », mais c'est un titre horrible, quand même. On a beau le retourner à prononcer, à lire, et de dire, voilà... Non. Oui. Aptitude négative, ça jette par rapport à tout ce qu'elle veut. Non, mais voilà, c'est un très beau disque réalisé par Warren Ellis, arrangé par Warren Ellis. Nick Cave est là. Il y a
un
qui
peu.
D'autre? Il y a Harcourt. Oui.
Et
mais c'est voilà, on nous dit, donc on nous le présente. Voilà, c'est enfin Marianne
niveau.
Revient. Elle, c'est son disque le plus sincère, le plus beau et tout. Et on dit ah bon, est-ce qu'il il y a 4 ans, elle avait fait Give My Regards to London, qui était avec à peu près la même équipe. Avant, elle avait fait un avec Pete Jarre, avec Anna Calvi, avec tous les gens qu'on aime. Et c'est ça qui est incroyable, c'est tous ces gens talentueux. La musique est là, tout est bien. Et le disque, il n'y a rien à reprocher à ce disque. C'est ça plutôt qui est terrible.
On peut en discuter
si ce n'est qu'on n'a pas tellement envie de le remettre après. Quoi.
Sauf ce morceau.
Après une écoute. Ce morceau est bien parce qu'effectivement, on dirait... Alors, du Nick Cave, du bon Nick Cave, une suite de Nick Cave, mais l'impression que des morceaux comme ça, il le fait, parce qu'il a une telle facilité, lui et Warren Ellis, à pondre des titres comme ça, on connaît l'histoire, il avait écrit les paroles, il lui a faxé, et puis il lui a renvoyé, genre, oui, j'ai pas le temps, et puis finalement, une heure plus tard, il lui a envoyé la musique. C'est oui, il est d'ouvrir un tiroir.
Ouais, mais oui, mais bon.
Non, mais oui, parce que je pense qu'il y a une, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une vraie admiration et respect pour Marianne Faithfull de la part de tous ces gens, mais de la même manière que j'en ai aussi, ça s'entend pas à ce que je dis. C'est quelqu'un qui a, je sais pas, c'est vrai que je l'ai écrit, j'ai dit, je pense que Marianne Faithfull, j'ai depuis toujours une sorte de respect distancié, quoi. Et elle a fait un disque, on va dire, qui est devenu un classique, qui a un peu vieilli, mais quand même, c'est Broken English, ça remonte à 78, qui était son vrai premier disque de la résurrection. On n'y croyait pas à l'époque, mais oui, parce qu'elle elle est arrivée. On l'a découverte comme la copine des Stones, cette espèce de beauté irréelle, qui n'avait pas une voix exceptionnelle, mais bon, elle tenait juste. Quand on voit les interviews d'elle, c'est vrai qu'elle était déjà étonnante, parce que c'est une cultivée intelligente qui avait du recul et en même temps était totalement sous l'emprise des Stones. C'est pour ça aussi qu'elle suscite cette admiration, cette aura, parce qu'elle a survécu à ça et pourtant elle a été plus bas que tous les autres, volontairement d'ailleurs. C'est à la fois subie, mais elle se l'est auto-infligée, quoi. Elle a traîné, on sait qu'elle a été héroïnomane, comme si bah, je vais aller avoir, je vais m'avilir encore plus qu'eux, pour me libérer un peu de cette emprise des Stones, notamment de Jagger. Et puis, elle a passé les années 70 à pas faire grand-chose, à du théâtre, et à revenir, à faire des disques pas très bien. Elle a co-signé, on n'a jamais su juste ce qu'elle a fait exactement dans Sister Morphine ou pas, qui reste le morceau fétiche à lequel elle sera toujours associée. Et puis, il y a eu cette... Quelque chose est arrivé. En 78, elle a fait ce disque Broken English, où on a découvert tout ce qui fait qu'elle s'est un peu cristallisée à jamais, cette voix cassée, ce physique déjà abîmé alors qu'elle était encore jeune. Et elle portait tout ça, et ce disque fascinait pour ça. La musique avait ce côté électro. Et cette reprise de Ballad of Lucy Jordan. Et depuis, elle vit sur cet acquis, sur cette admiration qu'elle suscite d'avoir été celle qui a approché au plus près ces icônes, les Stones, d'avoir survécu à ça, d'avoir à la fois pu l'analyser. Pardon, je vais vite. Ouais. Et de faire des disques qui sont toujours très bien réalisé avec cette voix et qu'on mais qu'on ne réécoute pas et en concert c'est d'un ennui mortel.
Ah non, mais bon voilà. Moi je laisse la parole à Pascaline Potvin puisque c'est votre anniversaire Pascaline.
Non moi je trouve que effectivement c'est pas un disque que je vais réécouter très très souvent mais il y a quand même quelque chose qui me touche c'est que là encore quand on parle de la façon dont on nous le vend moi j'ai lu aussi des choses c'est voulu comme un disque comme celui qu'a fait Nick Cave ou Leonard Cohen leurs derniers albums ces espèces de monuments posthumes qui sont juste des chefs-d'œuvre on peut pas comparer l'album de cet album-là.
Ah, vraiment, non.
Bien sûr.
Et Nick Cave bouge encore juste... heureusement.
Voilà et, oui j'ai dit Nick Cave Johnny Cash, pardon, excusez-moi, je suis.
Ah, d'accord.
Voilà, je vais vite. Non, il y a juste une chose qui me touche par rapport à ça, c'est que dans ces beaux disques masculins qui sont des chefs-d'œuvre, c'est quand même des personnages qui sont en sorte de statue du commandeur, presque déjà mort, des espèces de Yoda. Et là, je lui trouve quelque chose d'un peu touchant quand même à Ian Faithfull dans ses textes notamment. Mm-hmm. C'est une femme de 71 ans, lisez les textes, elle parle de solitude, elle parle de en vouloir encore goûter à l'amour, à des choses, à ce qu'elle est à 71 ans. Elle parle de ses amis morts. Elle le fait avec une certaine brutalité qui la rend vulnérable. Moi, ça me la rend touchante, en fait. C'est un disque de quelqu'un qui regarde la mort en face, qui évite d'être dans le mausolée posthume tarte à la crème parce qu'il est bien produit. Elle regarde non seulement la mort en face, mais elle nous regarde aussi en face. Elle n'est pas au-dessus de nous dans une espèce de statue, de mythe. Mmh. Elle est encore là et elle me regarde dans les yeux, elle me dit des choses. Et en ce sens, le disque me touche, moi.
Sophie Rosemont, enfin, cet album de My Faithfull.
Bah, je le trouve assez réussi, cet album. Bon, le souci, c'est évidemment la voix, qui est souffrante à tout point de vue. Mais oui, les textes, comme disait Pascaline, sont très beaux. Elle a touché à quasiment tous les textes sur cet album. Bon, il y a une reprise de Dylan un petit peu dispensable. Deux reprises d'elle-même, dont on revient sur Les Sorcières, Witch's Song, de Broken English, et qui est quand même réorchestrée de façon très intéressante, parce que je trouvais que la production sur Witch's Song de Broken English était un peu datée 80. Là, c'est assez sublimé. Évidemment, Nick Cave et Warren Ellis, surtout le violon, enfin voilà, les cordes de Warren Ellis subliment l'ensemble. Ce sont les preux chevaliers de Lady Marianne. Et bah, ça fait quand même un album qui, pour moi, est son meilleur d'ailleurs depuis Broken English. Parce que j'aimais beaucoup Give My Love to London, mais je l'avais trouvé assez faible du point de vue des chansons. Là, je trouve qu'il y a quand même Misunderstanding, In My Own Particular Way, Born to Live, et surtout le No Moon in Paris, qui est vraiment bouleversant sur voilà cette solitude. Alors maintenant, c'est sûr qu'il faut avoir la joie de vivre. Mais en tout cas, c'est un bel album.
Alors, c'est vrai que pour aller très vite, moi, j'ai jamais compris cette aura que vous avez si bien décrite. Hein. D'ailleurs, Hugo Cassavetti, je comprends pas comment on peut faire carrière aussi longtemps en chantant aussi mal, mais avec un si beau vibrato. Et c'est la première fois, moi, qu'elle me touche, My Ian Faithfull, dans un album, parce que je trouve qu'il y a quelque chose dans l'interprétation de ses propres mots, qui est vraiment, oui, qui est très émouvant. Je vais faire rapidement puisque c'est la fin de l'émission. Mais au-delà de cette chanson que je continuerai à écouter, il y en a d'autres parce que je trouve qu'elle a, je sais pas si c'est l'album, comme on disait au départ, où elle se livre enfin, etc. Mais moi, elle m'a enfin touché, ce qui est quand même, ce Broken English, c'était à quand même 40 ans et l'album a quand même beaucoup vieilli. J'ai réécouté un petit peu avant cette émission. Bon, faites-vous votre avis par vous-même, c'est toujours ce qu'il y a de mieux à faire avec ce nouvel album de My Ian Faithfull, Negative Capability, chez BMG. C'est l'heure du jeu de la dispute, du cadeau pour Pascaline Potvin, c'est l'anniversaire. Non, d'abord, la question du jeu d'hier soir et sa réponse. Sarah Dion qui nous a rejoint comme chaque soir.
La question était, quelle est la capitale du Groenland?
Et la réponse, parce qu'on parle en même temps dans le casque, enfin tout va bien.
La réponse est Nouk.
D'accord, ce soir, on fait gagner des places de cinéma pour les Yatskan, un film d'Anna Celia Kendall Yatskan, à découvrir dès demain au cinéma Le Saint-André-des-Arts à Paris, où Pascaline Potvin ira avec Nicolas Delmas, dont c'est également l'anniversaire. On ne l'avait pas dit encore, mais je viens de l'apprendre. Bon anniversaire, Nicolas. Il va y avoir une fête ce soir ici. La question, Sarah ?
Comment nomme-t-on la musique traditionnelle instrumentale des Juifs ashkénazes ?
Bon, votre réponse avec vos coordonnées postales envoyées à auditeurfc@radiofrance.com. On a failli souffler la question, la réponse. Toutes les informations concernant cette émission sont à retrouver sur notre site internet franceculture.fr à la page de la dispute, site sur lequel vous pouvez aussi réécouter cette émission, vous abonner au podcast également. Demain à 19h, ce ne sera plus l'anniversaire ni de Pascaline, ni de Laurent. Non, pas Laurent, bah, j'ai un trou de mémoire. 19h, donc, dispute consacrée à la littérature, puisque c'est demain que s'achèvera la distribution des Grands Prix d'automne. On sera en compagnie de Lucille Comeau, Raphaël Léris, Elisabeth Philippe, Étienne de Montetti, Rich Sommer, puisqu'on en parlera des livres lauréats des prix Goncourt, Renaudot, Femina et Médicis.